Bonjour Sébastien Carré, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous ce soir.
Bonjour, monsieur Jeanvray.
Alors, ma première question sur votre livre La pensée libertarienne, c'est cette relation entre l'utopie et le mouvement libertarien, comme une extension des idées et de la logique à tous les champs de la vie sociale. Donc, ça fait penser vraiment à une relation, à de l'utopie. Et du coup, vous mettez vous-même, dans votre introduction à la pensée libertarienne, cette relation entre mouvement libertarien et le mouvement de l'utopie.
Oui, en fait, je reprends une distinction de Paul Ricoeur, hein, qui distinguait l'idéologie et l'utopie, que je mets en fait en parallèle avec un texte de Hayek paru en 47 qui s'intitule « Les intellectuels et le socialisme ». Et Hayek, dans ce texte, hein, prescrit en gros au libéralisme une cure d'utopisation lui permettant de gagner les faveurs des intellectuels. Si vous voulez, les libertariens remplissent en gros ce programme défini par Hayek dès 1947 en procédant à une mutation en utopie du libéralisme classique. Alors, cette mutation s'opère à deux niveaux, hein, je vais être assez rapide, mais elle suit tout d'abord un processus, comme vous le disiez tout à l'heure, de généralisation, c'est-à-dire qu'il projette la logique du marché sur toutes les sphères de la vie sociale et ne se contente pas donc d'appliquer les principes de la liberté au seul domaine économique. Et puis, dans un second temps, il y a un processus de subversion qui consiste à muer la défense des libertés individuelles en une lutte tout simplement contre l'État. Hein, donc, les deux éléments sont importants, une généralisation de tous les principes libéraux, donc à toutes les sphères du vivre ensemble, et d'un autre côté, une subversion de ces principes, hein, les distensions de l'ordre établi, et donc on a ainsi la constitution d'un libéralisme à la fois subversif, hein, d'opposition au pouvoir, et un libéralisme imaginatif d'exploration d'un autre possible.
Alors, il y a une figure qui traverse tout votre livre, La pensée libertarienne, c'est Ayn Rand. Et donc, nous allons nous intéresser particulièrement à elle. C'est une des grandes figures du libertarianisme. On commence à la connaître aux États-Unis en 1943, quand elle publie La source vive. La source vive, c'est le titre français, qui la propulse dans le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de son parcours assez singulier jusqu'à 1943? Comment arrive-t-elle à cette position intellectuelle?
Alors, Ayn Rand n'est pas américaine, hein. Elle est née en 1905, je crois, en Russie, et elle s'exile en fait aux États-Unis toute seule, sans ses parents, sans sa famille, pour rejoindre New York au milieu des années 30. Alors je ne sais plus exactement quand. Elle va d'abord suivre une carrière à Hollywood de scénariste, hein, pour des films, puis très vite elle va, après avoir écrit quelques scénarios, se mettre au roman. Donc elle écrit un premier roman, je crois en 36, hein, qui s'appelle « Nous les vivants » et qui raconte un peu la vie de sa vie en Russie et la terreur bolchévique elle et ses parents ont subi en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et puis, en 1943, justement, elle sort son livre qui la rendra célèbre, hein, donc « The Fountainhead »,« La source vive ». Voilà, qui est son premier roman et son premier succès de librairie.
Donc là, on est dans un roman. Ensuite, elle continue dans le roman et elle travaille à son grand livre qui est Atlas Shrugged. Et là, dans ce livre, s'articulent les idées libertariennes. Comment s'articulent justement les idées libertariennes dans Atlas Shrugged?
Alors, Atlas Shrugged, en fait, décrit... alors, devait s'intituler à l'origine « The Strike », hein, « La grève ». Et décrit justement la grève des forces vives de la nation qui abandonnent un peu à leur triste sort les parasites impotents. Hein, donc, Ayn Rand reprend en fait la fameuse parabole de Saint-Simon, hein, qui se demandait qui adviendrait-il si les producteurs, hein, laissaient les parasites à leur triste sort. Bien. Et donc dans cet ouvrage, hein, les grands créateurs, les grands producteurs, quitte un à un l'économie américaine et se rassemble dans une communauté d'hommes vertueux dans une vallée du Colorado pour vivre ensemble, hein, et prendre congé de la civilisation corrompue. Alors à la fin du roman, les créateurs rejoignent quand même la société qui était alors en crise. Voilà, en gros, pour vous résumer le pitch du livre, qui devrait être adapté au cinéma, d'ailleurs, cette année, je crois.
Est-ce qu'on peut dire que les héros randiens, parce qu'il y a Atlas Shrugged est bourré de héros vraiment symboliques, est-ce que les héros randiens représentent ses propres idées à elle?
Ah oui, complètement. Hein. Il n'y a pas de, il y a presque aucune distinction à faire entre ses romans et son œuvre non fictionnelle. Hein. Le philosophe s'introduit presque toujours dans ses romans, hein, en ce qui concerne Ayn Rand. Il y a notamment dans Atlas Shrugged une réplique de John Galt, hein, Galt qui est son héros le plus emblématique, hein, qui doit faire une soixantaine de pages et qui définit en gros les grandes lignes de la pensée randienne. Hein. Ayn Rand avait même, je crois, passé 2 ans pour écrire ces 40 pages. Donc oui, les héros incarnent complètement sa pensée.
Vous voulez dire que John Galt, à un moment donné, fait un discours d'une soixantaine de pages, voilà, où sont mises dedans en fiction toutes les idées libertariennes de, voilà, Ayn Rand?
Toutes les idées d'Ayn Rand, oui.
Alors, quel est le destin de ce livre? On entend parler que c'est le deuxième livre le plus influent pour les Américains aujourd'hui, juste après la Bible.
Oui, alors ça, c'est un sondage qui avait été mené en 91 par la Bibliothèque du Congrès, oui. Donc, c'est souvent ce qu'on retient de ce livre qui est extrêmement influent aux États-Unis, hein, et que Reagan avait lu, qui a été lu par Poutine également aujourd'hui, et qui était lu bien entendu par l'un des proches de Ayn Rand, hein, qui n'était autre qu'Alan Greenspan, l'ancien directeur de la Banque fédérale américaine.
Mais c'est étonnant parce que c'est un livre, enfin, qui compte énormément de pages, il fait plus de 1000 pages.
Alors il fait, dans sa version anglaise ou dans celle que je me suis coltinée, il fait 1200 pages extrêmement bien tassées. Donc dans une édition normale, il ferait pas loin de 200 pages, je pense. Qui avait été traduit en français en 1958, je crois, un an après sa parution aux États-Unis. Qui j'entends ça tous les ans, mais qui devrait bientôt faire l'objet d'une nouvelle traduction en français. Là, j'ai vu récemment que cette année, il devrait paraître une traduction. Hein. Mais bon, j'entends ça depuis 6-7 ans maintenant, donc je ne sais pas.
Mais comment se fait-il que ce livre si important dans le monde anglo-saxon soit autant inconnu en France? Est-ce que parce que ces idées qui nous sont étrangères ici?
Oui, certainement. Ayn Rand parle davantage à l'esprit individualiste américain qu'à l'esprit français. C'est certainement l'une des raisons. Mais bon, le livre devrait être adapté au cinéma avec, dans les rôles principaux, Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc peut-être que le livre connaîtra une meilleure fortune en France après la sortie du film.
Donc après, avec ce livre, Atlas Shrugged, Ayn Rand a de nombreux disciples, il y a tout un cercle qui l'entoure. Comment cela se passe-t-il? Apparaît-elle un peu comme une prêtresse?
Complètement, oui. Alors elle a commencé à constituer un cercle à la suite de la publication de La Source Vive en 1943. Elle déménage alors à New York et loue un building dans l'Empire, tout un étage de l'Empire State Building. Dans lequel elle réunit tous ses adeptes, qu'elle appelait donc le cercle objectiviste, hein, et auquel participait notamment, je vous le disais tout à l'heure, Alan Greenspan et beaucoup d'autres. Hein. Donc effectivement, il y avait un côté sectaire, hein. Ayn Rand jouait le rôle d'une grande prêtresse et soumettait donc tous ses adeptes à des conditions assez drastiques, hein. Notamment, il ne fallait surtout pas s'opposer à ce qu'elle disait, où on risquait l'excommunication qui était prononcée de manière rituelle. Bon, il y a beaucoup de témoignages sur les mœurs qui régnaient dans ce cercle, qui relevait effectivement davantage de la secte que du club de philosophie.
Elle faisait quasiment l'objet d'un culte alors, non?
Oui, complètement, complètement. Il y a un article de Rothbard, qui est l'autre grande figure du libertarianisme, qui a participé à quelques-unes de ces réunions et qui s'intitule justement « Sociologie du culte » de Ayn Rand. Alors ça, le texte hein, fourni d'anecdotes croustillantes hein, sur Ayn Rand, qui sont avérées en fait, puisque beaucoup de témoignages depuis concordent pour dire à quel point Ayn Rand imposait une sorte de secte, hein, effectivement.
Mais est-ce que ce comportement plutôt sectaire allait avec les idées libertariennes? Est-ce qu'il y a un lien ou absolument pas?
Non, justement, c'est ce que relève d'ailleurs Rothbard, hein, c'est la contradiction qui existait entre le côté sectaire de ce cercle et les valeurs d'individualisme qui étaient prônées. Hein. Bon, ça, c'est une grosse contradiction dans la pensée d'Ayn Rand.
Oui, parce que pour qualifier son comportement, vous écrivez « Ayn Rand s'ingéniait à muer ses caprices et ses vices en devoir et en vertu. Aussi, Ayn Rand et sa garde rapprochée brisèrent-elles des mariages au simple motif d'une incompatibilité rationnelle ?»
Oui, par exemple, pour vous donner un exemple, Rothbard, hein, qui est l'autre grande figure donc, du libertarianisme, suivait une thérapie au sein de ce cercle objectiviste, qui était menée par l'amant de Ayn Rand, hein, qui s'appelait Nathaniel Brandon, et pour soigner sa phobie des voyages. Et le diagnostic de l'apprenti psychologue était que Rothbard, avait mal choisi son épouse, hein, qui était catholique, qui était donc croyante, et Ayn Rand était complètement agnostique et refusait qu'on puisse continuer de croire en Dieu, et donc ils ont essayé de briser ce mariage, bon, ce qui n'a pas fonctionné. Rothbard a donc été excommunié, apostasié du cercle.
Vous dites en même temps qu'elle avait une inculture manifeste qui était conjuguée à un sectarisme patenté. En même temps, c'est une romancière de génie, c'est curieux tout ça, non?
Oui, c'est une romancière de génie, hein. Je ne le nie pas, il ne faut pas relever que ce que je dis de mal d'Ayn Rand, mais effectivement, il y a une inculture manifeste. Hein. J'ai eu beaucoup de témoignages de certains de ses disciples qui disaient qu'Ayn Rand ne lisait jamais. Hein. Elle n'avait fréquenté que très peu d'ouvrages de philosophie et seulement l'œuvre d'Aristote, hein, un peu de Nietzsche, mais elle s'en est vite écartée. Nietzsche était un relativiste, ce qu'elle ne supportait pas. Hein. Et donc elle n'a lu en gros qu'Aristote et Nietzsche. Et en fait, elle ne se nourrissait de ce que lui rapportaient les étudiants qui étaient inscrits en philosophie. Hein. Mais elle-même ne lisait jamais, presque jamais.
Et Atlas Shrugged est considéré aux États-Unis plutôt comme un roman ou comme un essai philosophique?
Oh, comme un roman, comme un roman.
Un roman d'initiation alors peut-être?
Ah, certainement, certainement. Bah, c'est d'ailleurs un roman qui a converti presque tous les conservateurs de l'époque hein, au libertarianisme.
Alors, on va parler un peu de cette utopie libertarienne qui vise au fond au dépérissement du politique, mais à la différence de l'utopie marxiste, elle ne nie pas seulement le politique comme fin, mais le politique aussi comme moyen.
Oui.
C'était pour repartir sur ma question du début sur l'utopie libertarienne.
Oui, et votre question ?
C'est sur ce fait-là que l'utopie libertarienne vise au dépérissement du politique. Or, j'ai l'impression qu'elle parle aux hommes politiques américains.
Alors, je ne comprends pas votre question, en fait. Parce que...
Comment est-ce que je peux reformuler ça? C'était pour faire le lien entre la grande utopie marxiste...
Oui.
Et cette autre utopie qui est le libertarianisme, mais qui n'est pas vraiment une utopie, ni pour l'un ni pour l'autre, et de faire la différence. L'utopie marxiste est avant tout une utopie politique, mais l'utopie libertarienne ne l'est quasiment pas. C'est avant tout une utopie économique, non? Une utopie individualiste. Hein.
Oui, c'est ça. C'est l'idée de substituer donc au rapport politique des rapports uniquement économiques. Hein, oui, effectivement. Donc elle nie, si vous voulez, toute valeur du vivre ensemble. L'État n'est rien de plus qu'une sorte de société par action. Il n'est plus l'endroit où se définit par la délibération contradictoire un projet de vie en commun. Il n'est plus qu'une sorte de lieu où convergent les intérêts individuels. Donc il n'y a aucune substance. existence ou qu'une conception du vivre ensemble qui justifierait l'existence du politique, hein, effectivement, chez tous les libertariens. Même si certains libertariens sont favorables à un État minimal qui assurerait simplement la sécurité entre ses ressortissants. Mais il y a beaucoup de libertariens sont anarcho-capitalistes, hein, et visent un véritable dépérissement du politique et de l'État.
Alors, quels étaient les moyens d'action de Ayn Rand? Elle avait son cercle autour d'elle, elle allait d'université en université pour faire des conférences,
hein. Oui, elle était très bien implantée sur les campus. Il y avait également beaucoup de revues à l'époque, des enregistrements sur cassette. Donc elle était très influente, mais cette influence en fait a complètement décliné à partir de la fin des années 60, on va dire, lorsque sa relation avec Nathaniel Brandon, hein, donc son amant de 20 ans, son cadet, a été connue des autres membres du cercle. Le cercle s'est plus ou moins brisé, et Ayn Rand s'est un peu retrouvée toute seule, isolée, à partir du milieu ou du début même des années 70, jusqu'à sa mort en 83 ou 84, je sais plus.
Et donc, ce qui nous reste d'elle avant tout, c'est son grand roman, Atlas Shrugged. Mais ses idées philosophiques ou économiques sont quasiment à l'état d'abandon ou pas?
Ah, pas du tout, et ils sont encore extrêmement influents, hein. Aucun libertarien aujourd'hui, qui ont une influence, ne renierait Ayn Rand, hein, complètement. Donc non, ils ont une influence très importante sur l'état d'esprit des Américains, bien entendu. Ces idées, comme ces romans, vous savez, c'est très difficile de distinguer les idées d'Ayn Rand de ces romans, puisque ces romans incarnent véritablement sa pensée philosophique. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas distinguer. On peut, en revanche, distinguer, bien sûr, la manière de vivre d'Ayn Rand avec ses adeptes et le contenu de sa pensée.
En même temps, comme beaucoup de théoriciens libertariens, elle défend aussi une sorte de morale. Mais alors, vous dites que elle, à la différence, elle défend une morale qu'on pourrait après presque une morale maximaliste, comme pourrait le dire Ruwen Ogiane, par exemple. Une morale maximaliste qui proposerait un monde dans lequel on pourrait vous juger immoral non seulement pour vos actions, mais aussi pour vos pensées, vos désirs, vos fantasmes ou vos traits de caractère. Est-ce que c'est une de ses particularités, cette morale maximaliste, hein?
Alors, c'est vraiment ce qui la rend complètement atypique dans le paysage des libertariens. Hein, les libertariens aujourd'hui se contentent, enfin, tous les libertariens se contentent normalement de définir le cadre social le plus juste, hein, et laissent complètement de côté la question des comportements moraux individuels. Hein. Leur objectif est moins de définir les règles morales, hein, que de trouver le moyen le plus juste, hein, de coordonner justement ces règles qui sont laissées à la discrétion de tous les individus. Autrement dit, le libertarianisme s'interrompt toujours au seuil de la morale individuelle. Il est donc, comme vous le dites, ce que Ruwen Ogiane appelle une morale minimaliste. En revanche, Ayn Rand ne va pas observer cette retenue puisqu'elle va complètement renverser la perspective des autres libertariens. Et va donner à sa pensée comme priorité de définir une éthique de la vertu individuelle, et elle va ensuite déterminer ses conditions sociales de possibilité. Donc elle va essayer de déterminer les règles qui vont permettre de cultiver chez les individus au mieux cette vertu d'égoïsme. Elle va ainsi prôner un capitalisme qui permette aux individus de se dispenser de l'aide des autres et d'accéder ainsi à ce qu'elle appelle la vertu d'égoïsme. Donc elle renverse complètement la perspective des libertariens, des autres libertariens qui ne disent jamais ce qu'il est bien ou mal pour un individu de faire. Alors qu'elle commence par dire ce que l'individu doit faire et s'interroge ensuite sur la manière de rendre possible cette vertu au niveau de la société.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Carré, d'avoir répondu à mes questions.